Bonjour Gaëlle Mac.
Bonjour.
Bienvenue, directrice déléguée de la rédaction de Challenge, à la une du Challenge de cette semaine. La folle facture avec les programmes du RN et du NFP. Et puis, vous avez fait une addition en reprenant les principales mesures économiques sur la retraite, la TVA, les exonérations de cotisations salariales, le blocage des prix et l'augmentation des fonctionnaires. Avec nous, Léonidas Kalogeropoulos, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, PDG de Médiation et Arguments, délégué général de l'Open Internet Project. Et vous avez fondé les Entrepreneurs pour la République, la place de marché qui apporte des solutions concrètes d'entrepreneurs aux enjeux du pays. Christian Parizeau, bonjour.
Bonjour.
Il est élevé depuis 4 heures du matin, Christian. Il est au courant de tout, comme toujours, chaque fois qu'il arrive ici. On va voir les réactions de marché ensemble tout à l'heure. Vous êtes économiste et conseiller auprès d'Aurel BGC. Petit tour de table de votre état d'esprit au lendemain du premier tour, Léonidas.
Écoutez, c'est un moment politique absolument majeur. 68% des Français sont déplacés pour voter. C'est un moment de démocratie. On disait les Français dépolitisés. Je ne sais pas ce que ça serait si c'était pas le diagnostic dont on part. Il y a une demande de politique absolument considérable et néanmoins une crise globale du politique, une crise globale de l'offre politique pour répondre à des angoisses existentielles absolument terribles. On n'a globalement rien vu de crédible sur les problématiques de pouvoir d'achat qui sont d'ailleurs, je crois, mal exprimés. La question, c'est est-ce que le travail paye ? Et sur cette question, aucune réponse absolument, j'allais dire, maîtrisable, fiable, n'a été proposée par quiconque.
Le problème, Léonidas, c'est que si on veut que le travail paye davantage, il faut modifier fondamentalement le mode de financement du système de protection sociale.
Mais je suis totalement d'accord avec vous, et pardonnez-moi, mais devant 68% des Français qui vont voter, cette question, je la reprends exactement dans vos termes, il faut penser le système de financement de notre protection sociale, il n'a été repensé, remis sur le métier, par absolument aucune offre politique.
Généralement, c'est pas quelque chose de très agréable la protection sociale.
Oui, mais c'est peut-être...
Il n'y a pas que le financement qui a besoin d'être réformé, il y a aussi la facture globale.
Oui, mais quand est-ce qu'on pose les questions à un moment de dissolution et où 68% des Français vont voter...
Non, c'est 65.
Oui, 65, j'avais retenu 68, mais on ne pose pas... La question de nos déficits, est-ce qu'il y a le début de commencement d'une offre politique sur la réponse au déficit ? La question d'une angoisse globalement existentielle du pays sur son identité, sa culture. Globalement, des angoisses politiques majeures, pas d'offres crédibles. Mon sentiment aujourd'hui, c'est que jamais les responsables économiques, les responsables d'entreprise, n'ont autant été au pied du mur d'assumer leurs responsabilités. Les entrepreneurs, c'est la partie nation agissante d'un pays. De l'autre côté, il y a l'État. À l'évidence, toute offre pour prendre en main l'appareil d'État semble dépassée par l'ampleur des défis que l'on a vus hier soir s'égrener les uns après les autres.
Vous avez parlé d'économie. Moi, je continue à penser que l'économie ne fait pas voter encore moins pour cette élection.
Non, mais les entrepreneurs peuvent avoir peut-être des réponses.
Gaëlle Mac, état d'esprit du matin.
C'est tout à fait ça. Je pense que l'économie ne fait pas voter les électeurs. Et c'est de plus en plus vrai. Et c'est vrai que les candidats... Quand on repense à l'histoire, par exemple, François Mitterrand en 1981, il y avait un programme économique de gauche puissant, avec des nationalisations, des augmentations de salaires, plus de protection sociale, et les gens avaient voté pour ça en partie. En 2007, le « Travailler plus pour gagner plus » de Nicolas Sarkozy, il avait marqué, et il y avait vraiment un sujet économique, les gens avaient voté pour ce sujet.
Je veux dire, là... François Hollande, c'était l'aspect financier. Qui avait pas mal mobilisé.
Oui, voilà, l'hostilité à la finance. La finance sans visage. Bon. Et Emmanuel Macron aussi en 2017. C'était un peu cette idée d'une troisième voie, de l'émancipation également par le travail.
C'était le travail qui était bien là.
Voilà. Donc il y avait également un projet économique fort. Là, depuis quand même un an ou deux, il y a une perte de repère complète économique. C'est-à-dire que, Emmanuel Macron mène des réformes finalement de droite classique. La droite classique refuse les réformes, on voit quand même sur la réforme des retraites, sur la réforme, donc les comptes publics ne sont plus du tout un enjeu. plus, enfin, les Français ont jamais eu énormément de culture économique. La dette n'a jamais été en haut des préoccupations des Français. Hein. Jamais, je veux dire, quand on fait des sondages, ça n'a jamais été en haut. Et finalement, ça, est-ce que ça paye d'être crédible en économie aujourd'hui, politiquement? Bah non.
Ben non.
Ça ne paye pas.
Ça, on l'a bien vu. Hein.
Mais l'économie va se venger.
J'ai bien aimé la formule du candidat travailliste en Grande-Bretagne qui dit que dans un programme en matière économique, il faut promettre un espoir ordinaire. Sous-entendu, mais ça fait pas rêver un espoir ordinaire. Alors qu'un espoir extraordinaire, ça fait davantage rêver. Mais oui, c'est pas...
Alors que là, on est vraiment dans... On fait rêver... C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucune mesure d'économie, il y a des mesures de dépenses, et on va faire payer ou les immigrés ou les riches. Voilà.
Ou les générations futures. Hein.
Les générations futures.
Christian,
voilà.
Votre lecture
Oui, mais justement, moi je pense que l'économie va se venger, parce que le gros problème que l'on va avoir, quoi qu'il arrive, c'est qu'on a aujourd'hui une France qui est très divisée. Très divisé sur deux extrêmes. Ce qui veut dire, pour les marchés, pour les gens qui prêtent, l'image d'une France où finalement on peut tomber très vite d'un extrême à l'autre et ça sera très difficile de faire des réformes en France. Alors, je vais pas vous faire le scénario du pire à l'anglaise avec une défiance majeure des marchés obligataires. Admettons scénario qui peut faire réagir positivement les marchés aujourd'hui. L'idée que finalement, il n'y a pas une majorité absolue, que ça soit extrême-gauche ou extrême-droite, et donc forcément, on aura une coalition, et que la coalition va faire qu'on va avoir des mesures économiques beaucoup plus diluées par rapport au programme qui pouvait faire peur au marché. OK. Mais globalement, ce que je retiens aujourd'hui, c'est qu'il va être très difficile aujourd'hui pour la France d'adopter un vrai assainissement budgétaire. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est grave? Après tout, bon, tout jusqu'à maintenant, ça s'est bien passé. Sauf que, je vous dis juste, ça va se payer. Ça va se payer par quoi? Ça va pas forcément se payer par une crise majeure sur la dette française, mais par un taux d'intérêt beaucoup plus élevé pour la France que pour les autres pays, si on avait eu, toutes choses égales par ailleurs, une politique budgétaire rigoureuse. Ça veut dire qu'on va emprunter plus cher sur les marchés. Alors, même si on n'est pas dans un scénario extrême, les marchés continuent de nous prêter, mais ils vont demander une prime. Une prime pour nous prêter. Et cette prime, finalement, ça va encore plus contraindre le budget à venir de la France. Parce que ce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est si... Alors, on parle toujours du spread, alors l'écart de taux entre l'Allemagne et la France. Je vous rappelle juste, en réaction ce matin, hein, c'est plutôt les taux allemands qui remontent, mais pas les taux français qui baissent. Hein. Alors, on verra, dans la journée, ça peut évoluer encore. Hein. Mais ça montre bien, c'est-à-dire qu'on avait une crainte très forte, on avait acheté l'Allemagne vraiment en valeur refuge. Donc c'est les taux allemands qui avaient baissé. C'est ça qui avait fait finalement remonter la prime de risque sur la France. C'était pas. Mais là, ce qu'on constate, c'est qu'on est un petit peu rassuré sur la France. Donc on délaisse un peu les taux allemands, mais on fait pas baisser les taux français. Donc ça prouve qu'on veut prêter encore à la France, mais on exige encore des taux d'intérêt plus élevés qu'il y a encore quelques semaines. Et moi, ma grande crainte qu'on va avoir, et à mon avis, ça sera renforcé en septembre, et je pense que ça sera le mois de septembre où on a le plus de risques sur le marché obligataire, parce que c'est là où on verra le budget 2025, c'est là où on verra peut-être les tensions avec l'Europe.
C'est là où globalement on aura le verdict pour savoir si la parole française est respectée.
Et donc admettons, sans vouloir jouer les oiseaux de mauvais augure, mais ça peut quand même arriver, mais qu'on n'ait pas de défiance des marchés, mais on aura une prime. Et cette prime, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la France va se réemprunter, va rouler sa dette et va emprunter avec des taux d'intérêt plus élevés. Ça veut dire que dans le budget 2025, 2026, 2027, ça sera une charge d'intérêt qui ne va pas cesser d'augmenter pour la France. Et donc, ça veut dire moins de flexibilité budgétaire. Ça veut dire moins de social, moins d'investissement pour la transition énergétique, moins dans l'éducation. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que quand on regarde l'Italie, si on doit prendre un exemple sur l'Italie, aujourd'hui, l'Italie emprunte à des taux d'intérêt trop élevés. Alors l'Italie, vous allez me dire, ils sont pas dans une situation, ils ont un excédent, ils vont revenir en excédent primaire positif, mais l'Italie aujourd'hui, quand même, n'arrive pas à se désendetter parce qu'elle emprunte à des taux d'intérêt trop élevés par rapport à sa croissance et à son inflation.
Alors
et
que contrairement à la France, elle a un excédent budgétaire primaire. Hein,
voilà, elle va le redevenir plus, cette année a priori, mais ça c'est un vrai problème. C'est un vrai problème de fond, parce qu'en France, on a 3,6 points de PIB de déficit avant la charge de la dette. Et après, je vous fais exploser la charge de la dette. Donc ça veut dire qu'on a un budget qui sera complètement contraint. Alors moi, ma principale crainte aujourd'hui,
on met 50 milliards de remboursement dans la dette cette année déjà.
Voilà, mais moi, ma principale crainte...
Le double comparé à 2021.
Et ça, ça va rester. C'est quelque chose qui va rester. Que vous pensiez ce que vous voulez, quel que soit le gouvernement, aujourd'hui, on a un vrai risque. Et ça, ça empêche toute flexibilité budgétaire.
Bon, la réaction de marché, ça y est, on vient d'y répondre, là, avec vous, Christian Parizeau.
Peut-être un petit mot, si vous permettez, quand même.
Léonidas, parce qu'on revient un peu sur l'actu.
Oui, mais sur l'actu, non, simplement, parce que faut quand même prendre aussi sa part de responsabilité dans le résultat d'hier. On est ici, je pense, globalement, à avoir des débats sur nos nuances par rapport à une politique de l'offre à laquelle on adhère, parce que l'on pense que l'économie a besoin de stimulus et que c'est le principal moteur de la création de richesses. Il faut quand même reconnaître que depuis 7 ans qu'on a cette politique de l'offre, le bilan, c'est à peu près 65% de Français qui votent dans les extrêmes. Enfin, il faut qu'on se fasse un peu notre propre examen de conscience. Nous pensons globalement que une politique pro-entreprise est bonne pour notre pays. Nous devons nous poser la question de trouver les ajustements qui font que globalement le pays y adhère. Ce n'est aujourd'hui pas le cas. Ça nous concerne.
Je ne pense pas que le vote d'hier soit un rejet de la politique de l'offre.
Non, je ne pense pas. Nous pourrions être collectivement dans l'idée que quand une politique de l'offre fonctionne, elle donne satisfaction au pays et le pays y adhère. Nous devons constater, et ça nous interpelle chacun d'entre nous, que le pays n'y adhère pas. Et donc il y a des ajustements que nous devons nous forcer à apporter à nos propres convictions. Et je le dis... pour moi-même, en premier.
C'est l'information économique en France du jour. La décision a été annoncée tard hier soir. Le Premier ministre a suspendu la réforme de l'assurance chômage qui prévoyait de durcir les conditions d'accès et notamment de réduire aussi la durée d'indemnisation. Il y avait aussi cet aspect qui ne verra pas le jour, c'était l'idée d'avoir un bonus emploi senior pendant un an. Un senior, donc un plus de 57 ans, qui retrouve un boulot mais avec un salaire moins bon qu'avant, eh bien l'État compensait pendant un an la différence de salaire. Ça aussi, ça fait partie des éléments qui ont été enterrés. Il fallait éviter un vide juridique, donc un décret de jointure a été publié ce matin au Journal officiel. Ce décret court jusqu'à la fin du mois de juillet et il permet donc d'assurer les affaires courantes, de pouvoir continuer à juridiquement et légalement indemniser les demandeurs d'emploi. Est-ce qu'il a raison, le gouvernement, selon vous, Gaël Mac, d'avoir enterré cette réforme de l'assurance chômage ?
En tout cas, c'est vrai que l'idée de faire passer cette réforme vraiment à la veille, disons le 30 juin, à la veille du premier tour, alors qu'il est clair que les deux formations politiques qui sont ressorties en tête de ces législatives, c'est-à-dire le Rassemblement National et le Nouveau Front Populaire, étaient toutes les deux opposées à cette réforme. Et l'avait dit assez clairement et voulait revenir dessus.
Sur toutes les réformes, d'ailleurs, du côté du NSC.
C'était un petit peu... c'était pas une très bonne manière, on va dire. Et bon, en dehors du fait que manifestement, en pratique, c'était assez compliqué d'arriver à faire les choses dans les temps. Bon, et après, est-ce qu'il y a un petit côté tactique aussi de politicienne dans cette affaire et l'idée de faire un petit geste, disons, notamment en direction du Nouveau Front Populaire, puisque on sait quand même que là, dans la conjoncture politique, on a 250 triangulaires et qu'il va falloir faire un peu des accords dans tous les sens. Et que, bon, je crois comprendre que Renaissance ne veut absolument pas les faire avec le Rassemblement National, mais que, bon, avec certains des candidats de Nouveau Front Populaire, c'est possible. Donc, il y a eu peut-être aussi un peu de manœuvre politique là-dedans.
Possible, effectivement. Une réaction sur l'assurance chômage ou...
Non, mais bon, que l'on veuille se dire, on va essayer de faire de la politique un peu autrement, parce que jusqu'à présent, ça n'a pas bien marché. Peut-être que il peut y avoir aussi plus de concertation. Maintenant, on a un moment électoral qui est quand même très, très clairement un moment où il vaut mieux mettre les urticants de côté. Cela dit, l'inspiration de cette réforme était une aspiration à laquelle on peut adhérer.
Oui, l'idée c'était de faire des économies, bien sûr, mais il y avait aussi l'idée quand même d'augmenter le taux d'emploi. On retrouvait la notion du travail et des...
Il y avait une cohérence par rapport à l'idée de mettre le travail en avant.
Non, mais on peut dire que surtout, c'était une des dernières mesures après la réforme des retraites qui prétendait faire des économies et que là, les économies, c'est plus l'heure.
Non, c'est plus l'heure.
Oui, mais justement, c'est ça que je voulais dire. C'est un peu le problème qu'on risque d'avoir, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que ça va être très difficile de faire de nouvelles réformes aujourd'hui.
Ah ben,
Exactement.
Mais là, c'est fini.
Alors, ça pose quand même un problème, parce que j'entends bien, il y a certains, notamment de mes clients, qui disent, bah, finalement, on va se retrouver comme en Belgique. Et finalement, la situation de la Belgique n'était pas si mauvaise que ça.
C'est ceux qui disent, la Belgique arrive à passer 300 jours sans gouvernement, et ça n'a jamais si bien marché.
Ça n'a jamais aussi bien marché. Alors, moi, je suis d'accord sur l'exemple belge, mais ce n'est pas forcément reconductible en France. Pourquoi ? Parce qu'il y a un point que faut pas oublier, c'est qu'on a un déficit public qu'il va falloir résoudre, et qu'on a 3,6 points de PIB de déficit primaire. Et si on fait rien, on a une dérive naturelle des comptes publics. Ça veut dire que ne rien faire aujourd'hui, c'est aggraver les choses. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. C'est-à-dire que non seulement on va rentrer dans une période où ça va être très difficile de faire des réformes structurelles et de trouver des économies. Alors après, encore une fois, je ne mets pas de couleur politique, quel que soit le choix, mais il va falloir à un moment donné passer des mesures qui seront impopulaires. Et si vous n'avez pas de majorité au niveau de l'Assemblée, ça va être très compliqué de passer, surtout si en plus on a deux visions de l'économie qui sont totalement extrêmes et totalement opposées. Et derrière, ne rien faire n'est pas une solution. Et c'est là, attention à cet élément-là.
Le scénario belge n'est pas
pour moi une solution, parce qu'on ne respectera pas alors nos objectifs de long terme de réduction des déficits, et on va avoir un creusement mécanique du déficit primaire français. Oui. Et donc, encore une fois, la situation va empirer.
Je précise que tous les retours d'expérience des précédentes réformes d'assurance chômage qui ont pu être menées dans différents pays, c'est toujours avec les mêmes paramètres qu'elles ont été menées, et on sait que lorsque l'on durcit les règles, on améliore le retour à l'emploi et le taux d'emploi. Voilà, il y a les comportements s'adaptent, les individus sont sensibles à l'effet d'horizon, et si vous abaissez la durée d'indemnisation, il y a une accélération du retour vers l'emploi, et si vous durcissez les conditions d'éligibilité au système d'assurance chômage, les contrats également s'adaptent à la nouvelle donne. On l'avait déjà observé quand on était passé de 4 mois exigés à 6 mois pour pouvoir être éligible à l'assurance chômage. Donc dans les aspects purement techniques et les résultats qu'on pouvait obtenir, il y avait des résultats positifs.
Oui.
Gaëlle, allez-y.
Je voulais juste dire que par rapport au programme économique, vous parliez Christian Parizeau, il y a une certaine continuité en fait, sur un plan strictement économique entre le Rassemblement National et le Nouveau Front Populaire, sont quand même deux partis anti-libéraux, plutôt protectionnistes, plutôt étatistes, qui veulent des dépenses sociales, qui veulent revenir à la retraite à 60 ans, qui veulent augmenter les salaires, qui ne disent rien sur la réduction du nombre de fonctionnaires, qui n'ont pas d'objectif de réforme de l'État, en gros, du périmètre de l'État. Au contraire, je veux dire, ils veulent plutôt des nationalisations, finalement. En fait, leur programme économique se ressemble un peu. Donc évidemment, le Rassemblement National est toujours un peu... Il y a toujours cette tension entre une droite libérale, plus même ultra-libérale, qui était défendue par Jean-Marie Le Pen en son temps, et que sa fille Marine a complètement est revenue en arrière et a changé. Et de nouveau, Jordan Bardella, on sent qu'il est peut-être plus libéral, et puis il cherche à se concilier le patronat. Mais en même temps, leur programme est donc, en gros... Soit c'est l'immobilisme, ce qui, comme vous dites, est le pire. Enfin, je veux dire, ne rien faire, c'est aggraver la situation. Voilà. Et ou alors, passer les mesures, les réformes, entre guillemets, qui sont proposées par ces deux formations, ne font qu'aggraver le déficit.
Oui, pardonnez-moi, Gaëlle, parce que
Léonidas, on a deux minutes, on marque une pause.
Hein. Sur ce sujet, il y a une part de manque de pédagogie, parce que ce que Nicolas vient d'expliquer sur la logique de remettre un horizon plus exigeant pour qu'on retourne au travail, globalement, on pourrait amener toute la société française vers une aspiration au travail, et elle pourrait être partagée, et donc nous n'aurions pas ces deux extrêmes qui contestent globalement la totalité d'une réforme comme celle-là. Vous avez raison de rappeler que les deux extrêmes sur ces sujets se rejoignent. En revanche, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à entraîner vers cet enthousiasme collectif vers le travail? Le chômage recule, on devrait avoir cet engouement, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lorsque les gens passent d'un revenu d'assistance ou d'allocation vers le revenu du travail, la différence est tellement faible qu'il y a une contestation très profonde.
Ça a justement été en partie, on a eu un début de correction de ce que vous décrivez avec les précédentes réformes de l'assurance chômage.
Oui, mais enfin, vous le savez comme moi, elles sont marginales globalement sur le fait de d'estomper un peu un différentiel qui n'est pas suffisant, mais le fait de franchir un pas dans sa vie en commençant à travailler et que ça marque véritablement une lancée totalement, radicalement différente, ça c'est quelque chose qui n'est pas perçu. C'est d'ailleurs globalement ce qui est mis en avant dans le fait de mettre le pouvoir d'achat comme principale motivation dans les votes.
Il faut quand même regarder que le Rassemblement National, là où il a gagné des points en ce moment, ça n'a pas du tout été sur ce type de population, c'est-à-dire sur les classes populaires qui sont entre chômage, précarité, etc., où il était déjà largement en avance. C'est vraiment sur les retraités, donc qui ne sont pas concernés par ce sujet, ou sur les cadres supérieurs, hein, je veux dire les catégories sociologiques dans lesquelles le Rassemblement National a gagné des points dernièrement, c'est pas sur les gens qui sont en ce type de situation. Donc vraiment, le phénomène est bien plus large.